agrafe des places publiques. Donc c'est ce qui nous a aidé sincèrement à prévenir la radicalisation de l'extrémisme violent dans notre pays.
Un dialogue doctrinal sera même engagé avec les prisonniers islamistes poussant certains à renoncer à la violence.
Le problème du terrorisme en Mauritanie est facile à régler. C'est une minorité de gens facile à convaincre. Il faut y aller en douce et dialoguer. J'ai l'expérience moi-même. Seul le dialogue mène à la paix et à la stabilité. La violence ne règle pas la violence. Le Mauritanien même est de nature pacifiste. Dès qu'on lui parle, il renonce à beaucoup de choses.
Certains repentis se sont regroupés dans une association dénommée Rachad pour se donner une seconde chance.
Il faut leur donner une alternative en leur facilitant la réinsertion socio-économique. La nature a horreur du vide. Une personne inactive qui ne peut pas subvenir à ses besoins est vulnérable et s'expose au danger.
Malgré toute cette stabilité, 4 détenus pour terrorisme s'évadent de prison en mars 2023 et exécutent 3 éléments des forces de défense et de sécurité avant d'être neutralisés. Pour le général, les pertes humaines sont regrettables, mais le test de résilience de la stratégie nationale a réussi. La tentative des évadés de rejoindre leur base hors du pays est mise en échec. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott.
Voilà le reportage de Mohamed Diop qui est en ligne avec nous. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Eric.
Merci pour ce reportage très bien fouillé. Dites-nous en quoi consiste la politique de déradicalisation mise en place en Mauritanie et quels en sont les résultats concrets.
Écoutez, pour l'origine de la politique de déradicalisation, je rappelle qu'il existe une cellule régionale de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent pour les pays du G5 Sahel. De cela dépend la cellule mauritanienne. Mais la particularité du pays, c'est cette communion avec les populations. Imams, enseignants, maîtres coraniques et autres personnes ayant une influence sur les masses sont mobilisés dans la campagne de sensibilisation contre l'extrémisme violent. Il y a aussi un réseau de femmes appelé Murshidat qui participent activement dans la sensibilisation. On n'a pas eu l'occasion d'en parler dans le reportage, mais il y a surtout ce dialogue entre religieux et prisonniers islamistes. Et beaucoup de ces derniers ont renoncé à la violence. Aujourd'hui, à part des évasions de détenus islamistes, on en a connu 2, les forces de défense et de sécurité mauritaniennes ont moins de pression en interne, ce qui leur permet de concentrer leurs efforts au niveau des frontières. Eric ?
Oui, Diop, quelles sont les perspectives à long terme de la Mauritanie pour maintenir sa capacité à contenir la menace terroriste dans la région du Sahel?
Il faut cette puissance de feu. Le volet défense et sécurité est essentiel. On a besoin aussi de s'adapter au phénomène du terrorisme. Le général Seydou Sambadia, qui intervient dans le reportage, m'a souligné que les armées du Sahel ont été créées pour des guerres classiques. Il va donc falloir s'adapter au nouveau face-à-face avec les terroristes. Il nous parle d'ailleurs d'initiatives en ce sens, comme le cas des GSI en Mauritanie, groupements spéciaux d'intervention. Ils apparaissent dans le reportage, vous les voyez. Il faut aussi maintenir le dialogue et surtout faire en sorte que les islamistes repentis puissent réussir leur réinsertion socio-économique. Cela va encourager d'autres à comprendre qu'il est possible de changer de vie. Pour finir, je pense aussi que les pays du G5 Sahel doivent initier des manœuvres militaires périodiques. Cela va renforcer leur opérationnalité sur le terrain et maintenir la confiance réciproque pour un bon partage de renseignements.
Merci Mohamed Diop, un modèle qui fonctionne très bien. Je signale que on peut nous suivre sur notre page Facebook et notre page YouTube de VOA Afrique. Pour discuter plus en détail de ce sujet, nous avons en ligne avec nous Mohamed Ould Ratat, rédacteur en chef de TV Al Mauritania et directeur de publication Nouakchott Info et agence Annie MR. C'est l'invité de cette édition de Focus Sahel. Bonsoir Ratat.
Bonsoir, Eric.
Bienvenue dans Focus Ahead. Quel rôle les organisations de la société civile jouent-elles dans la prévention de l'extrémisme violent en Mauritanie et comment collaborent-elles avec les autorités en place?
Donc, vous savez, comme un peu à l'instar de la communauté internationale, la Mauritanie fait face à des défis sécuritaires dont le terrorisme constitue un des aspects les plus saillants. Depuis 2008 et surtout depuis 2010, elle a adopté une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale qui consiste à associer tous les acteurs pour élaborer une approche laquelle utilise...
Ratat ?
Allô ?
Oui, je vous écoute. Je vous écoute, vous avez la parole.
Cette approche utilise les moyens civils et militaires pour contrer le terrorisme. C'est une large réflexion impliquant de nombreux secteurs de l'État et de la société civile. Et c'est traduit par une approche qui a une spécificité notable, c'est de s'appuyer sur les ulémas et les fuqaha, les savants et les juristes religieux, afin de contrecarrer les propagandes des djihadistes et corriger leur fausse perception religieuse.
Et ça a fonctionné. Et comment expliquez-vous que la politique de déradicalisation ait fonctionné en Mauritanie alors qu'elle a échoué dans d'autres pays de la région?
Comme je vous l'ai dit, la stratégie sécuritaire se compose de quatre axes principaux: un axe juridique, un axe sécuritaire et militaire, un axe politique et diplomatique et un axe culturel et religieux. Débattre avec les terroristes est une idée innovante. Et les efforts de déradicalisation ont donné des résultats probants. Les ulémas ont démontré aux égarés que l'islam est une religion basée sur la paix, la miséricorde, la compassion, et que contrairement à ce qu'ils pensent, leurs actes terroristes ne les mèneront qu'en enfer. Car tuer des innocents ou s'attaquer à des civils ne peut jamais être justifié, quelle que soit la raison et quel que soit le moyen utilisé. Et puis, comme je vous l'ai dit, ils se sont repentis, sinon du moins plus de 90% d'entre eux. Et les programmes de réinsertion ont été faits pour eux avec des moyens de pouvoir reprendre leur vie normalement et s'insérer dans la vie active.
Ratat, quel est le rôle de la coopération internationale et des pays voisins dans la capacité de la Mauritanie à lutter contre le terrorisme?
La Mauritanie a mobilisé ses agences travaillant dans le domaine sécuritaire, comme la Direction générale de la sécurité nationale, comme la sécurité extérieure, comme des bureaux des unités de renseignement de l'armée, de la gendarmerie, de la garde, des douanes, du groupement général de la sécurité routière. Bref, toutes ces agences qui coordonnent avec les agences des pays amis et alliés travaillant dans ce domaine pour échanger des informations et des expériences. La Mauritanie a aussi engagé sa diplomatie. Il a été l'un des premiers pays à tirer la sonnette d'alarme contre le terrorisme dans les couloirs de l'Union africaine. Nouakchott a accueilli en 2014 le sommet de création du groupe du G5 Sahel, qui inclut la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. À cela s'ajoute le niveau de coopération et de coordination entre la Mauritanie, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Union européenne, etc., qui a évolué sans cesse et Nouakchott est devenue la capitale, de la guerre contre le terrorisme dans la région du Sahel africain jusqu'à aujourd'hui.
Quels sont les défis auxquels la Mauritanie doit encore faire face pour maintenir sa stabilité et sa sécurité face à cette menace djihadiste à long terme?
Bon, je dirais que la stratégie mauritanienne anti-terrorisme agit à long terme. Et il est conscient que la guerre contre le terrorisme durera longtemps. Même en dépit des progrès réalisés par la Mauritanie, le danger est toujours imminent, compte tenu de l'influence croissante d'Al-Qaïda dans la région du Sahel et de l'entrée de Daesh sur la ligne dans la région. Donc, pour la Mauritanie, il faut d'abord maintenir la plus grande vigilance. Compte tenu des résultats satisfaisants de la démarche qui a été entamée avec le dialogue et les ulémas avec les terroristes, les autorités ont décidé aussi de pérenniser ce dialogue avec les extrémistes et de continuer à juguler, si vous voulez, le hard et le soft power.
Merci Mohamed Ould Ratat. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef TV Al Mauritania et directeur de publication de Nouakchott Info et agence Annie MR. Merci pour votre expertise, pour votre perspective et pour votre temps. Vous êtes toujours le bienvenu dans Focus Ahead.
Merci à vous, merci Eric, merci beaucoup.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Oui, vous pouvez nous suivre sur nos plateformes digitales, Facebook et YouTube. Le 22 avril 2023, des djihadistes présumés ont attaqué la zone de l'aéroport de Sévaré dans la région de Mopti, faisant 10 morts et une soixantaine de blessés. Au-delà de Mopti, les populations dans d'autres régions sont également inquiètes suite aux récentes déclarations d'un responsable du groupe État islamique, invitant d'autres groupes à les rejoindre. Correspondance de Boubacar Touré depuis Gao.
Dans la plus grande ville du nord du pays, les populations expriment leur compassion et invitent les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance. Abdramani Siaka, un jeune leader de la commune de Djebok, de passage à Gao.
Je vais profiter de votre micro pour souhaiter prompt établissement à tous ceux qui ont été blessés et présenter nos condoléances. La situation de Sévaré, vraiment, c'est inquiétant. C'est là où le Mali a tout son arsenal. On craint que ça n'arrive pas à d'autres locaux. Donc vraiment, c'est le moment de demander à nos autorités et à nos forces de sécurité vraiment de doubler de vigilance. Il n'y a rien à négliger.
Hamidou Sissé, enseignant dans la commune urbaine de Gao.
La situation, elle est inquiétante. C'est que ça passait à Sévaré. Personne ne s'attendait à ça. Ça nous montre une fois de plus que nous ne sommes pas du tout en sécurité. Que ce qui est arrivé à Sévaré peut arriver à n'importe quelle localité de la région de Gao. S'il y avait une parfaite collaboration de la population, de tels attentats ne peuvent pas arriver, en aucune manière.
Si la plupart des personnes interrogées affirment leur inquiétude, ce n'est pas le cas chez Fatmata Touré, vendeuse de condiments au marché Damien Batu de Gao. Pour elle, la présence des forces de défense et de sécurité rassure.
Par rapport à ce qui s'est passé à Sévaré, certaines personnes sont vraiment très inquiètes. Mais quant à moi, je reste parce que je suis croyante. Je crois en Dieu. Et puis, si nos soldats sont là, bien présents, ils sont sur le qui-vive. Ils veillent sur nous, nuit et jour. Il n'y a pas de raison à avoir peur. Nous avons la sécurité, même si ce n'est pas à 100%. Je suis rassuré. Si ce n'est pas les petits banditis, les voleurs, dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a la sécurité.
La récente déclaration des responsables de l'État islamique au Grand Sahara invitant les autres groupes armés à se résigner, à déposer les armes et à les rejoindre fait encore peur. D'où l'urgence de mettre les accords d'Alger en application. Hamidou Sissé, enseignant à Gao.
Moi, j'invite les autorités maliennes à essayer de mettre au moins l'accord en vigueur. Je crois que c'est la seule solution pour empêcher à ces gens d'aller joindre les autres. Cela n'est pas bon pour le pays, cela n'est pas bon aussi pour le Sahel.
La déclaration de l'État islamique prouve simplement que les terroristes sont en perte de repère. Hamad Alamine Aghataï, agent à l'Académie d'enseignement de Gao.
Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le terrorisme est en perte de vitesse au Mali. Puisqu'ils sont menacés, ils demandent à ceux-ci de leur rendre la monnaie. Joignez-vous à nous comme nous l'avons fait quand vous avez besoin de nous.
En tout cas, les populations de la région ont toujours en mémoire l'attaque à la voiture piégée contre le camp du Mok, le mécanisme opérationnel de coordination causant des lourdes pertes en vies humaines. C'était 18 janvier 2017 à Gao, sur la route de l'aéroport Gao. Boubacar Touré, VOA Afrique.
De Gao, nous nous rendons au pays des zones intègres. Le village de Karma, situé dans le nord du Burkina Faso, a été la cible d'une attaque meurtrière perpétrée par des hommes en tenue militaire. Selon des témoignages et un communiqué des rescapés, plus d'une centaine de personnes ont été tuées lors de cette tuerie qualifiée de lâche et barbare. Le gouvernement a confirmé l'ouverture d'une enquête par le procureur de Waïgouya et a promis de faire la lumière sur ce drame. C'est notre fait marquant de la semaine et je suis en ligne avec Aubin Guébré, journaliste de notre télépartenaire BF1 TV à Ouagadougou. Guébré, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Guébré, quel est le niveau d'indignation ou de colère exprimé par la population face à cette attaque?
Oui, il faut dire que le choc, l'indignation, elle est totale hein, dans une population burkinabé qui avait commencé à espérer, qui pensait qu'avec le passage à l'offensive des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, on était près du bout du tunnel dans cette lutte contre le terrorisme. Mais hélas, il y a cette horreur, le massacre de Karma, qui vient rappeler qu'on est encore loin des objectifs en termes de sortie de crise dans cette lutte contre le terrorisme. Et Franck, c'est une indignation totale. La population est à la fois dans la colère, et se demande comment cela peut encore arriver dans ce contexte où on nous a vanté les mérites justement des forces de défense et de sécurité aujourd'hui, depuis l'avènement, donc l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Il est clair que désormais, ce qui est régulièrement annoncé, c'est que l'armée est passée à l'offensive. Et alors, ce massacre de Karma vient porter un coup à cette dynamique et en même temps vient porter un coup à l'espoir des Burkinabés aujourd'hui qui se demandent comment on a pu en arriver à là, à quelques dizaines de kilomètres de Waïgouya où il existe une base militaire, comment les terroristes ou alors qui a pu perpétrer ce massacre, cette horreur, justement à quelques encablures donc d'une position des forces de défense et de sécurité. Donc l'indignation, elle est totale chez les Burkinabés, meurtris, choqués, qui se demandent toujours qu'est-ce qui a pu bien se passer.
Et comment les médias locaux ont-ils couvert cet événement? Ont-ils mis en avant des témoignages de survivants ou de proches des victimes?
Oui, il faut dire qu'au départ, il y a eu quelques jours qui se sont écoulés avant que l'information véritablement ne soit traitée dans la presse. C'est d'abord les réseaux sociaux qui ont révélé les faits, qui ont commencé à parler donc de ce massacre. Et par la suite, justement, il y a eu ces ressortissants qui sont sortis pour justement dénoncer la situation et appeler donc à la lumière, à la vérité. Et c'est à partir de là que la presse véritablement a commencé à parler du problème, à travers justement la parole donnée à des témoins, à des rescapés, à des ressortissants donc du village de Karma, mais aussi à travers les communiqués officiels, d'abord du procureur de Waïgouya, mais aussi le communiqué du gouvernement, qui sont venus par la suite, il faut le reconnaître, à la pression, parce qu'effectivement, de plus en plus, les langues ont commencé à se délier au sein de la population, au sein des ressortissants, mais aussi au sein des organisations de la société civile. Donc, la presse a véritablement commencé à partir de là à parler du problème, ce qui a contraint quelque peu aussi les autorités à sortir de leur mutisme justement pour, à travers des communiqués, annoncer justement l'ouverture d'enquête. Donc, la presse en a parlé à travers des témoignages, des communiqués, mais aussi des analyses de ce massacre.
Guébré, existe-t-il des preuves ou des indices suggérant que les auteurs du massacre étaient en fait des militaires? Et comment cela a été rapporté dans les médias?
Oui, c'est l'interrogation, hein, la grande interrogation aujourd'hui. Et la presse en parle avec beaucoup de réserve, justement parce que vous savez qu'en 2019, il y a une loi qui a été votée et qui met la presse mal à l'aise dans cette couverture de la situation sécuritaire. Cette loi dit clairement qu'il faut éviter de démoraliser les troupes sur le terrain à travers certains types d'informations. Eh bien, donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui semble difficile, qui ne permet pas à la presse de faire véritablement son travail. Oui, des indices, oui, il y a justement les témoins, les rescapés ont parlé d'hommes habillés en tenue militaire des forces de défense et de sécurité burkinabè, d'hommes qui étaient sur des motos, des pick-up, des blindés. Les blindés, on sait surtout que ce sont les forces régulières, les forces de défense et de sécurité qui utilisent des blindés. Et puis, il y a aussi l'élément langue, justement. Ceux qui ont massacré les villageois, les témoignages font état donc d'hommes qui parlaient à la fois en français, en morée, la langue parlée par une majorité des Burkinabés, en Dula également, qui est une langue aussi majoritaire, mais aussi en Lobiri. Et là, on se dit que généralement, les groupes terroristes ne sont pas dans cette diversité de langues. Et donc, ce sont des indices comme ça qui pourrait faire penser aux forces de défense et de sécurité. Mais effectivement, il y a aussi d'autres tests qu'il ne faut pas oublier, parce que de plus en plus aussi des groupes terroristes portent des tenues militaires des forces de défense et de sécurité burkinabènes pour perpétrer certaines attaques. Donc il y a la notion de perfidie qui est utilisée au niveau donc des autorités gouvernementales pour dire qu'il faut faire très attention et attendre justement.
Merci à Guébré Aubin de notre télé partenaire BF1 TV à Ouagadougou. Merci Guébré pour toutes ces explications. La Semaine nationale de la culture a enfin repris après 5 ans de suspension en raison de la crise sanitaire et des troubles qui ont secoué le Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture a eu lieu samedi dernier à Bobo-Dioulasso et durera une semaine pour célébrer toutes les facettes de la culture burkinabé. Retour sur cet événement édifiant avec Alidou Ouédraogo.
Fort de ses 35 000 places, le stade Aboubakar Lamizana a refusé du monde pour l'ouverture de cette 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Une telle fête dans un tel contexte sécuritaire relève de la résilience du peuple burkinabé, a reconnu le ministre de la Culture Jean-Emmanuel Ouédraogo. À un certain moment, il faut prendre certaines décisions, a dit l'ancien ministre de la Culture Philippe Ouédraogo.
Il y a quelquefois des décisions qu'on doit prendre et qui doivent affirmer la volonté que nos artistes, nos communautés villageoises qui sont là aujourd'hui, nous sommes au mois de mai, mais nous savons qu'ils vont repartir et revoir déjà la dimension des cultures, la dimension de leur chant, mais ils vont avoir en tête des souvenirs.
Après 5 ans de suspension, c'est dans l'euphorie que les Bobolais ont renoué avec la Semaine nationale de la culture, même si le contexte sécuritaire reste difficile.
Vu le contexte à l'heure actuelle, que dit le Burkina Faso, si nous avons réussi à organiser d'abord cette manifestation, cela veut dire que le Burkina Faso est debout et va rester debout.
Nous sommes très heureux car nous attendions la SNC depuis de longues dates. Tout le monde sait que Bodilasso est une ville de culture. Si on doit dire que la ville doit se passer, la SNC, cela touchait à notre dignité. Mais comme la SNC est revenue, nous sommes heureux. Regardez comment le stade est rempli. Les gens sont venus de partout.
Il y a eu beaucoup de prestations. Il y avait les Bobos, ils sont venus des 13 régions pour faire leurs prestations. Il y avait aussi les Djoulas avec leurs prestations sur les femmes mariées. Les Mossi sont venus avec leurs danses traditionnelles. Les Guinéens, qui sont le pays invité, eux aussi, ils sont venus, ils ont dansé et j'ai beaucoup aimé leurs prestations.
C'est le 6 mai prochain ici à Bobo-Dioulasso même que les rideaux vont tomber sur cette 20e édition. Alidou Ouédraogo, Bobo-Dioulasso pour VOA Afrique.
Merci à Alidou Ouédraogo. Kader Traoré a également contribué à la réalisation de ce reportage. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui nous ont apporté ces nouvelles de la région. Eric Manilakiza était avec vous au micro, Michel Claire-Joseph, Fatouma Alimasi Kalala et Arzuma Compaoré ont assuré la mise en onde. Koi Gwainga a assuré la diffusion sur Facebook et YouTube. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète. Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus. Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook, voaafrique.